France Inter.
France Inter. Le 18-20. Fabienne Sintès.
Allez, commençons par balayer devant la porte. On va parler dépistage dans cette émission. On va se demander pourquoi les chiffres sont si bas. Une femme sur deux seulement en âge d'être détectée pour le cancer du sein, par exemple, a fait vraiment le chemin vers les mammographies. Mais on va pas vous faire la leçon. Moi qui suis dans les tranches d'âge toujours concernées désormais, le sein, j'y vais. Famille à risque, c'est devenu une routine. Je suis même entrée dans une cohorte sur le cancer du poumon, donc ça veut dire scanner, mais l'enveloppe bleue du cancer colorectal, j'ai refusé l'obstacle. Voilà, et pourtant c'est le seul qu'on peut faire tranquillement à la maison, hein, on est d'accord. On en est tous à peu près là, il reste des progrès immenses à faire, il reste à expliquer, il reste à dédramatiser et nous rendre à l'évidence que faire l'autruche ça sert à rien, ça n'est pas parce qu'on ne veut rien savoir qu'il ne se passe rien. Et vous allez nous raconter si vous êtes réfractaire ou volontaire, on n'oublie pas que la France n'est pas égale territorialement, aller faire une mammo à 25 km c'est pas pareil qu'à deux stations de métro, et pourtant les chiffres de guérison des cancers pris précocement commencent à parler d'eux-mêmes. Nos invités vont vous le dire, le sein, le col de l'utérus, le colorectal, les rendez-vous indispensables chez le médecin pour les potentiels cancers de la prostate. Est-ce qu'il y en aura d'autres ailleurs pour d'autres cancers? On posera la question. Nous parlerons aussi du poumon ce soir qui a peut-être enfin ouvert une grande porte. On le verra. Nous parlerons traitement. Les progrès sont aussi rapides. On parlera vaccin parce que ça commence à venir. Même si, et je vous entends, vous qui êtes malade et vous nous écrivez, là tout de suite vous vous dites oui, enfin rapide, ça dépend pour qui. Le cancer, évidemment, reste une épreuve violente, mais la recherche est prometteuse, elle passe peut-être par l'intelligence artificielle, tout cela nous y viendrons. C'est le téléphone sonne et soyez les bienvenus.
Le téléphone sonne. 01 45 24 7000.
Céline, vous êtes la première et vous êtes la bienvenue, bonsoir.
Bonsoir Fabienne.
On vous écoute Céline.
Alors moi je voulais témoigner, en fait, j'ai été soignée il y a 11 ans de ça maintenant, d'un mélanome qui a été détecté alors que j'étais à mon quatrième mois de grossesse. Voilà, et en fait, j'ai un médecin traitant qui m'avait toujours dit, écoutez, vous avez la peau claire, vous avez une peau à risque, je vous conseille de vous faire suivre régulièrement chaque année. Mmh. Et donc j'ai suivi son conseil et effectivement, mon oncologue m'a dit qu'il m'avait très certainement sauvé la vie, évité de graves soucis, parce qu'un mélanome pendant une grossesse... Ça peut être très compliqué.
On est ravis pour vous, Céline, évidemment. Et alors, si vous nous écoutez, que vous avez la peau claire, n'allez pas chez le médecin là tout de suite. Mais c'est bien, effectivement, ce que vous faites. On va essayer de voir, d'ailleurs, jusqu'à quel point il y a plein de signes, plein de signes pas forcément d'ailleurs, mais de petits critères comme ça qu'il suffirait de surveiller, de se regarder peut-être tout simplement. Merci beaucoup Céline pour discuter autour de la table. Il y a Marie-Pierre Revel, bonsoir. Vous êtes chef de service bonsoir. De radiologie à l'hôpital Cochin à Paris. Votre spécialité c'est le poumon, on y viendra. Éric Solari, vous êtes praticien hématologue et vous êtes vice-président de la fondation ARC. Bonsoir à vous Victor Dolande, vous êtes journaliste français à France Inter. Salut Victor.
Bonjour.
Là-dessus, Éric Solari, moi j'ai envie de dire un peu comme Céline en fait, regardons-nous. Et quand on se regarde, on comprend deux, trois choses. Par exemple, effectivement, une peau extrêmement claire comme celle de Céline chez les femmes avant même la mammographie, c'est tout simplement apprendre à se toucher, apprendre à se palper. Il y a plein de trucs qui sont très, très dédramatisants et qui participent aussi au dépistage.
Oui, oui, vous avez raison. À côté de la politique publique de dépistage, il y a la possibilité de se surveiller soi-même. Et ce qui a été dit sur la peau claire, ben voilà, c'est un contexte dans lequel il y a un risque plus élevé. Et d'ailleurs, c'est probablement quelque chose vers lequel on s'oriente dans le dépistage du cancer. C'est-à-dire qu'on s'oriente vers un dépistage probablement plus personnalisé à l'avenir. Mmh. Aujourd'hui, on a des politiques publiques avec des offres très... dans un contexte très précis. Dépistage entre 50 et 74 ans pour le sein, pour le côlon, peut-être bientôt pour le poumon. Plus tard, je pense qu'on s'orientera vers un dépistage beaucoup plus personnalisé.
Mais plus personnalisé, ça veut dire on regarde plus les antécédents ou alors on connaît des terrains de danger, ça veut dire quoi?
Oui, je pense qu'on va... D'abord, l'histoire familiale et personnelle en général est très importante.
C'est déjà le cas.
Le phénotype, hein, c'est-à-dire, vous avez évoqué la peau claire, ben voilà, avoir la peau claire, c'est peut-être être plus exposé au risque de cancer cutané, donc on surveille un peu plus précisément. Et donc, pour chaque personne, il faudra faire un peu un diagnostic du risque. et adapter le dépistage à ce diagnostic du risque. Je pense qu'on s'oriente vers ça, on n'y est pas encore, ça va demander probablement encore une dizaine d'années, mais et d'ailleurs l'intelligence artificielle probablement aidera à ça, peut-être qu'on aura l'occasion d'en reparler.
Bien sûr, on en reparlera, on y viendra. Pour l'instant, cancer du sein, cancer colorectal, cancer du col de l'utérus, on va parler du poumon avec Marie-Pierre Revel dans un instant. Est-ce qu'on peut dire, est-ce qu'on peut donner même une échéance et dire dans 5 ans, dans 10 ans, dans 15 ans, j'en sais rien, dans 20 ans, on va pouvoir dépister beaucoup, beaucoup plus de cancers que ça.
Vous voulez dire d'autres cancers avec une autre, des politiques plus étendues
Ou se dire qu'il peut y avoir un dépistage, j'en sais rien, en tout cas, du cancer de la prostate ou d'autres choses.
Mais absolument, je pense que c'est exactement vers ça qu'on va. Alors, de là à mettre en place des politiques publiques, ça c'est toujours très long. Mais en tout cas, c'est sûr que, et je pense que Marie-Pierre Revel est encore plus qualifiée que moi pour répondre à ça, mais en termes d'imagerie par exemple, on progresse en imagerie, et donc il est probable qu'avec l'imagerie, on dépistera des cancers supplémentaires dans les années qui viennent.
C'est parce qu'on progresse tellement en imagerie, Marie-Pierre Revel, qu'on a gagné, vous nous direz si c'est vrai d'ailleurs, la bataille du dépistage du poumon ou pas.
Tout à fait, puisque dans les années 70 aux États-Unis, une étude avait utilisé la radio de poumon, c'était le Mayo Lung Project, pour, comme moyen de dépistage, et ça a été un échec. Et donc pendant 30 ans, il ne s'est rien passé, jusqu'à ce que, en 1999, Claudia Henschke, une radiologue new-yorkaise, ait l'idée d'utiliser le scanner. Alors, c'est des scanners qui étaient pas aussi performants que les scanners actuels. Hein. C'était des coupes assez épaisses, des doses un peu plus importantes. Maintenant, on a beaucoup progressé, mais quand même, elle a donné le signal de l'utilisation de ce scanner comme moyen de dépistage. Et ensuite, une large étude aux États-Unis a comparé deux stratégies. Une stratégie radio dont on savait qu'elle n'était pas très efficace à une stratégie scanner et a montré que le risque de décéder d'un cancer du poumon était réduit très significativement, au moins 20%. Et puis dans d'autres études, ça va jusqu'à 39%, voire chez les femmes encore plus quand on utilise le scanner. Donc oui, l'imagerie a permis de progresser dans la détection.
Est-ce que ça veut dire là que le cancer du poumon va s'ajouter à la liste de 4 très officiellement bientôt? Ça veut dire quoi?
Alors, première date importante, la Haute Autorité de Santé en février 2022 a confié à l'INCa, l'Institut National du Cancer, la mission de déployer une étude pilote. Et nous y avons travaillé pendant 2 ans et ça a été annoncé très récemment par Norbert Ifra, le démarrage d'une étude en population, le projet qui s'appelle Impulsion. Mais il y a eu d'autres signaux. Le 9 décembre 2022, le Conseil européen a révisé ses recommandations pour dire qu'en plus des dépistages colorectal, sein et col, il fallait travailler à évaluer la faisabilité d'autres dépistages, à savoir le poumon, la prostate et le cancer gastrique dans certaines indications. Voilà. Donc c'est vraiment quelque chose qui évolue. Et l'idée de combiner des dépistages radiologiques est probablement très efficace. Dans l'étude Cascade, on a profité de l'invitation au dépistage du cancer du sein, parce que c'est les mêmes âges de participation, pour informer les femmes fumeuses et anciennes fumeuses qu'elles pouvaient être éligibles au dépistage du cancer.
Ce qu'il faut dire quand même pour nos auditeurs qui nous écoutent, c'est que ces dépistages pourraient réduire considérablement la mortalité des cancers poumons, qui est encore le premier cancer qui tue le plus en France.
Oui, oui, tout à fait. Parce que tout l'intérêt du dépistage, le poumon, c'est un organe très silencieux. Donc le cancer va se développer sans entraîner aucun symptôme, à moins d'être déjà dans une forme évoluée. Donc le dépistage va l'attraper débutant. Et vraiment, ça c'est un message aux fumeurs, anciens fumeurs. Ne vous dites pas, ah, je vais pas y aller parce que de toute façon, si on me diagnostique un cancer, c'est fichu. Pas du tout. On a vraiment une très forte probabilité de guérir avec des interventions qui maintenant sont aussi beaucoup plus performantes. Hein. Nos collègues chirurgiens développent ce qu'on appelle la chirurgie mini-invasif, c'est-à-dire qu'au lieu d'ouvrir le thorax, on fait un peu comme on le fait en célioscopie, on met des petites caméras et on se retrouve avec quasiment pas de cicatrices. Je sais de quoi je parle.
Enfin, on va y revenir, je voudrais d'abord qu'on repasse par le standard. Bonsoir Christelle.
Bonsoir.
On vous écoute Christelle.
Eh bien moi, il y a 2 ans et demi, suite à un cancer colorectal, enfin non, suite à un test colorectal, on m'a dit que j'avais du sang dans les selles. on m'a orientée vers l'hôpital et pour que je fasse une coloscopie de contrôle. Là, on m'a dit que il y avait un polype qui était trop gros pour l'hôpital de Savoie où j'habite et on m'a envoyée sur Lyon parce que le polype faisait quand même 5 cm, ce qui était relativement gros. Et moi, devant ma surprise, il n'y a jamais eu de cancer de ce type dans la famille. Je suis allée voir le chirurgien à Lyon qui m'a dit que, 5 cm, pour lui, c'était pas dramatique, mais que c'était pris à temps parce qu'il devait exister depuis longtemps. Mmh. Et moi, je faisais des tests tous les 2 ans. Mmh. Et il m'a dit, des fois, ça passe de côté. Voilà, c'est pas à 100%. Et on me l'a enlevé, il était cancéreux. On m'a refait, 6 mois plus tard, une coloscopie avec des prélèvements. Et cette fois-là, il n'y avait plus du tout de cancer. On m'a refait un an plus tard une coloscopie. Et grosso modo, partout où je suis passée, on m'a dit « faites du prosélytisme, faites du prosélytisme ». Mais ça ne marche pas.
Mais écoutez, faites du prosélytisme, vous avez bien raison, Christelle. Il y a quand même des choses qui sont très étonnantes. Et alors, vraiment, je l'ai dit, donc je me mets complètement dans le lot, Eric Solari. Il y a un truc avec le cancer colorectal, enfin pardon, alors que c'est le plus simple pour le dépistage. Mais il y a quelque chose qui ne marche pas, en fait, dans la com' qu'on fait autour.
C'est vrai. Et pourtant, c'est le sujet auquel on s'attaque au sein de la Fondation Arc ce mois-ci. On lance à nouveau une campagne pour inciter au dépistage.
Alors, c'est la petite campagne avec la petite crotte en peluche.
Voilà,
c'est ça. Non, mais c'est vrai.
Voilà. Mais alors, à l'escalade, parce que le sujet a quelque chose d'embarrassant.
Mais ce que je trouve intéressant, pardon, je vous interromps, parce que je l'ai vu, cette campagne, effectivement, sur le site de l'Arc. Donc, effectivement, c'est une petite crotte en peluche qui essaie de dédramatiser. Mais ce que ça dit, c'est que le message vers les cinquantenaires, vous n'y arrivez pas. Donc, on est en train de passer le message vers les plus petits pour qu'ils envoient leurs parents. C'est ça que vous êtes en train
de faire.
C'est
exactement ça. C'est-à-dire qu'on voudrait essayer de passer par une voie détournée, c'est-à-dire de demander que les gens incitent ceux qu'ils aiment à faire les tests de dépistage qu'ils ont à faire. Alors, je ne peux pas vous dire comment ça va marcher, mais en tout cas, en étudiant la situation, on s'est aperçu que les gens, directement, n'y vont pas, parce que le sujet les embarrasse, parce qu'ils n'ont pas envie de faire le test, alors qu'une fois qu'ils ont franchi le pas, comme Christelle vient de vous le dire, c'est un test qui est simple à faire, qui est très fiable, même si, dans le cas présent, on a l'impression qu'on a, entre deux tests, il s'est passé quelque chose, mais c'est tout à fait possible
qu'un
polype évolue entre deux choses. Donc, c'est pour ça qu'on le fait tous les 2 ans. Mais voilà, c'est quelque chose de simple et qui pourtant ne dépasse pas 34-37% des gens concernés.
Marie-Pierre Revel, est-ce que sur le poumon, vous avez le sentiment que ce sera l'inverse? Parce que moi aussi, je peux en parler, il y a beaucoup de gens qui sont rentrés dans vos cohortes en fait, pour servir de cobayes, de tests. Est-ce que précisément, c'est typiquement le genre de dépistage où vous dites, alors, tous les fumeurs ou anciens fumeurs vont y aller très très vite et peut-être même plus vite que le cancer du sein, le cancer du colorectal ou le dépistage du col de l'utérus qu'on peut faire aussi?
Alors, je ne sais pas, on va voir quand on va lancer le programme Impulsion, là, dans la deuxième partie de 2025. Pour l'étude cascade que j'ai coordonnée chez les femmes et dont les inclusions sont terminées, alors désolé pour les participantes potentielles qui continuent à nous appeler, mais Impulsion va arriver et donc on va s'occuper de vous. On n'a pas d'idée de ce que va être l'adhésion. Ça va dépendre de comment on communique là-dessus. Aux États-Unis, où ce dépistage existe déjà depuis 2013, les taux de participation sont très bas.
Mais c'est cher.
Parce que c'est associé à une stigmatisation. C'est honteux aux États-Unis d'être fumeur. Donc voilà, il faut qu'en France, on n'est pas du tout dans cette optique. Il faut déculpabiliser les fumeurs, c'est pas la faute des gens de fumer, c'est parce que voilà, l'addiction est forte et que on les a pas prévenus que quand on commence c'est très difficile d'arrêter, et on peut tout à fait soutenir des démarches de sevrage. On insiste beaucoup sur cet aspect dans le futur programme, et on espère que la participation sera élevée, et en tout cas on est tous très motivés pour
et on a les moyens, je veux dire, on a le le matériel, en fait, pour pouvoir dépister autant de gens que volontaires?
Alors, on estime que... il y a au moins 3,5 millions de Français qui seraient éligibles à ce dépistage, parce qu'ils ont plus de 50 ans, entre 50 et 74 ans, et ils ont été exposés au tabac ou sont toujours exposés au tabac. On verra si notre nombre de scanners est suffisant. Tout dépend de l'adhésion, tout dépend de l'adhésion au dépistage. En tout cas, on a, au niveau de la Société française de radiologie, vraiment anticipé en formant un nombre très élevé de radiologues à cette technique. Hein. Vous savez, comme pour le dépistage du cancer du sein, tout radiologue n'est pas, expert, formé, et ça nécessite vraiment une formation spécifique, que ça soit une partie importante de l'activité. On ne peut pas faire ça une fois de temps en temps. Oui. Voilà, on verra, mais on aura aussi la possibilité de s'adapter.
Il y a un enjeu aussi sur la durée, c'est-à-dire de vraiment prendre le réflexe de continuer à faire ces dépistages, dans le sens où si une première fois le résultat est négatif, on peut aussi avoir tendance à ne pas revenir faire ces tests-là.
Ce qui est valable pour tous les dépistages.
Exactement.
D'ailleurs.
Oui, tout à fait. Il ne faut pas que ça soit une... Vraiment, ça se conçoit à intervalles réguliers. Et attention à l'idée qui serait, j'ai fait mon scanner, il est négatif, donc je vais continuer à fumer, je ne reviens plus. Non, ouais. Ça, c'est une très mauvaise idée.
Juste avant de retourner au standard, Eric Solari, je comprends, c'est totalement humain, mais la première raison pour laquelle les gens ne vont pas se dépister, quel que soit le cancer d'ailleurs, c'est de dire « j'aime autant pas savoir ouais. ». Comment on fait pour le contourner, cet obstacle-là?
C'est pas votre spécialité,
monsieur le praticien hématologue.
Il faut en parler, et puis je pense qu'il faut peut-être solliciter l'entourage, comme on essaye de le faire là. Je pense que tout ça y participe. Il faut aussi dédramatiser au maximum le sujet. Je pense aussi que les progrès de la prise en charge contribuent aussi à rendre, et contribueront encore à rendre le dépistage mieux perçu, plus accepté. En tout cas, c'est ce qu'on peut espérer pour l'avenir.
Et puis peut-être dire qu'un cancer dépisté, c'est un cancer qu'on va pouvoir guérir, hein, dans l'immense, immense majorité
alors voilà,
des cas.
Et c'est le mot guérir est important, parce qu'on reçoit des messages aussi qui disent « ne dites pas guérir, moi je ne suis pas guéri, je suis en rémission, etc. » Est-ce qu'on dit, Marie-Pierre Revel, « oui, parfois, ça s'appelle guérir quand un cancer a été pris à temps et qu'on a pu tout enlever, en gros. »
Tout à fait. En tout cas, pour le poumon, les stades précoces que l'on opère n'ont pas besoin d'avoir des traitements complémentaires. Il n'y a pas de chimiothérapie, il n'y aura pas de radiothérapie. Il y a la nécessité de continuer une surveillance. Mais on les guérit, oui.
Rapidement, Eric Solari, on retourne au standard, allez-y.
Oui, c'est vrai aussi pour les autres cancers, hein, pour le colorectal, il suffit d'enlever souvent. Parce que beaucoup de tumeurs solides mettent des années à s'installer et à se développer. Et donc, si on les prend en chemin, on arrive à les enlever et la situation est résolue. Mm-hmm. Et là, on parle d'authentique guérison. Donc, on peut guérir des cancers pris précocement.
Jacqueline est avec nous. Bonsoir, Jacqueline.
Oui, bonsoir.
On vous écoute.
Juste une petite question. Après 74 ans, vous dites que le dépistage s'arrête, mais qu'est-ce qui se passe après? On est nombreuses dans ce cas.
Et surtout, tout le monde vit beaucoup plus longtemps.
Donc,
Jacqueline, merci beaucoup. Vous êtes un peu la porte-parole de beaucoup, beaucoup de nos auditrices ce soir. Pourquoi est-ce qu'après 74 ans, ça ne sert plus à rien? C'est l'idée? C'est quoi l'idée?
Oui, c'est une question qui intrigue toujours beaucoup, cet arrêt à 74 ans. Alors, en fait, ce n'est pas vraiment un arrêt. C'est que la politique publique s'arrête là. Mais derrière, les médecins sont en charge de proposer de continuer ou non le dépistage en fonction de la situation. Après 74 ans, il peut y avoir d'autres pathologies qui interfèrent, il y a plus de prise de médicaments en général, et donc il y a des facteurs d'interférence qui rendent le dépistage moins efficace, moins sensible, en tout cas quand il est fait de façon systématique tous les deux ans. Donc à ce moment-là, ça devient vraiment un dépistage personnalisé.
Aux États-Unis, allez-y. Ça a été augmenté, l'âge a été reculé jusqu'à 80 ans. Ouais. Pour l'instant, on a posé avec l'INCa qu'on allait déjà commencer de 50 à 74 ans, et puis voir comment ça se passe. Et il y a des enjeux effectivement de maintenir les gens dans le dépistage. Et puis, je pense qu'il faudra qu'on aborde les aspects prévention.
Ben oui. Comme par exemple, allez-y, Marie-Pierre Morel,
vous comme par exemple qu'à un moment donné, il va falloir qu'on arrête de vendre des cigarettes tous les trois feux rouges, quoi. Ah. Enfin, ça va pas faire plaisir aux buralistes, que je dis, mais en même temps, je pense que ça participe à une espèce d'anesthésie collective du fait que on est une normalisation du fait de fumer, alors que c'est véritablement catastrophique. Donc, il faut qu'on arrive à une nouvelle génération sans tabac. Il faut qu'on s'adresse aux jeunes. Et les messages, c'est que on peut pas être écolo et fumer, parce que c'est il y a 4 500 milliards de mégots, c'est un cinquième du transport aérien en termes d'impact, c'est un pollueur, ça va pas du tout et surtout ça tue. Voilà.
Si tu arrêtes de fumer, tu prendras l'avion. Je vais recevoir du courrier. C'était une blague pour détendre un peu l'atmosphère. On a Jacqueline tout à l'heure qui nous parlait de l'âge, Camilla, André aussi. On a une question à l'envers, si je peux dire, sur l'âge d'Anne-Sophie, Eric Solari. Et qui nous dit « Je ne comprends pas pourquoi le dépistage du cancer du sein est pris en charge à partir de 50 ans, plus seulement à 40 ans. Donc j'ai eu un cancer à 45 ans grâce à un dépistage à partir de 40 ans. » J'ai cru comprendre d'ailleurs qu'on est en train de réfléchir effectivement de revenir en arrière. Qu'est-ce qu'on répond à ça, Victor ?
On peut juste dire quand même que la Haute Autorité de Santé vient d'être saisie la semaine dernière par le ministère de la Santé pour justement se poser cette question d'abaisser l'âge du dépistage du cancer du sein. Donc probablement, peut-être 45 ans.
C'est bien, 45 ans, non, Eric Solari? Je vous le dis parce que dépistage, nous dit Pierre. Enfin, encore, faut-il avoir un rendez-vous chez le spécialiste quand on a la chance, chez un généraliste, pardon, quand on a la chance d'avoir un généraliste. Et ils ont raison, hein, c'est beaucoup plus compliqué dans tellement d'endroits.
C'est vrai. Mais ceci dit, le dépistage systématique, que ce soit pour le cancer du sein ou le cancer colorectal, reçoit une invitation de la Caisse primaire d'assurance maladie. Donc, c'est la responsabilité de la Caisse départementale d'inviter les gens à le faire. Et là, il n'y a pas besoin de passer nécessairement par le médecin généraliste parce qu'on sait effectivement les difficultés d'accès actuelles. Donc, je crois qu'il faut profiter de cette opportunité d'abord.
Voilà, attention au dépistage, un grand oui. Attention à ce que les patients dépistés puissent être traités dans les délais raisonnables. Ce n'est pas le cas partout. C'est un médecin généraliste de la Sarthe qui nous le dit. On a beaucoup de messages dans ce sens-là qui disent aussi oui, bien sûr, mais c'est ce que je disais en introduction, quand on fait 50 bornes en voiture pour aller chercher une mammographie ou autre chose, on est très très inégaux là-devant. C'est le cas, ça va être le cas aussi pour vous, Marie-Pierre Revel, s'agissant du dépistage du cancer du poumon.
C'est pour ça qu'un des objectifs du programme, c'est de regarder l'impact sur les filières de soins. On a posé des critères à partir du moment où on a un dépistage positif. Quel est le délai maximal acceptable pour qu'on lance les investigations, le délai pour la chirurgie, c'est tout ça qu'il faut qu'on mesure, qu'on mesure aussi quelles sont nos possibilités en termes d'offres de soutien au sevrage, enfin, et c'est pour ça que je comprends que ça soit qu'on passe par une phase intermédiaire où on va justement pouvoir bien définir les filières, évaluer l'impact et vraiment structurer les choses.
Est-ce qu'on sait dire, je vous pose la question à tous les deux, je ne sais pas qui a la réponse, je ne vais pas vous piéger, est-ce qu'on sait dire pourquoi il y a une telle disparité géographique? Est-ce que c'est juste une histoire, est-ce que c'est une histoire vraiment territoriale, donc plus de déserts médicaux ici ou là, ou est-ce que c'est beaucoup plus compliqué que ça en fait en termes de dépistage? Par exemple, il y a deux régions particulièrement noires, si je puis dire, Nord-Pas-de-Calais et Corse, par exemple. Est-ce que c'est une histoire de désert médical, ou est-ce que c'est aussi qu'il y a des endroits où c'est culturellement plus compliqué? Ça existe, ça, ou pas?
Oui, je crois que ça existe. C'est vrai aussi, d'ailleurs, dans les départements d'outre-mer, pour certains aspects, dans lesquels il y a des aspects culturels dans l'accès au dépistage qui interfèrent, en quelque sorte, avec l'adhésion au processus proposé. Ça relève presque de la sociologie par certains aspects.
Mais c'est vrai que, et c'est pour ça que il y a des actions d'aller vers les populations qui sont les moins favorisées. On a bien vu dans Cascade que les femmes participantes étaient en moyenne très éduquées et qu'il faut aller vers tout le monde.
Sauf que je rajoute quand même une petite chose, c'est que seulement 5% des dépenses de santé sont allouées à la prévention. En France, on ne fait pas suffisamment de prévention et donc on n'a pas suffisamment mis de moyens justement pour aller chercher ces personnes, pour les convaincre sur tous ces dépistages. Et si on ne le fait pas, s'il n'y a pas davantage de politique publique, malheureusement, ces chiffres de dépistage dans ces trois types de cancers différents, on va avoir quand même du mal à les faire grimper. En tout cas,
On va, je voudrais qu'on parle d'intelligence artificielle juste avant, et puisqu'on est dans ce thème-là, on a un message d'un auditeur qui s'appelle Thomas sur WhatsApp et qui nous dit l'important c'est aussi la formation des généralistes pour que le généraliste sache il faut que vous alliez vous dépister, il faut que vous alliez dans un endroit, attention, ça j'aime pas mais j'en sais rien, allez passer une radio, etc. Et ça c'est pas toujours le cas aussi, Eric
oui,
Solari.
C'est plus que ça, je pense qu'effectivement le généraliste a un rôle central dans tout ce qui est prévention et dépistage. Pour cela, il faut qu'il ait le temps d'une consultation permettant d'analyser une situation donnée pour adapter la prévention et le dépistage à la personne à laquelle il s'adresse. Mmh. Il faudrait idéalement une consultation dédiée pour mettre en place un plan de prévention et de dépistage ad hoc pour chaque malade. Aujourd'hui, il n'y a pas assez de généralistes et pas assez de temps pour le faire.
On parle de dépistage du cancer aujourd'hui dans le téléphone sonne avec Eric Solari, qui est vice-président de la Fondation ARC, avec Marie-Pierre Revel, qui est chef du service radiologie à l'hôpital Cochin, avec Victor Dolande, qui est le spécialiste santé de France Inter. Et avec vous, Myriam Sefta, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes chef du diagnostic dans une start-up qui s'appelle Hawkin, et on va parler d'intelligence artificielle ensemble. Et je voudrais que vous nous expliquiez, vous travaillez avec Gustave Roussy évidemment depuis longtemps, donc en collaboration avec les équipes qui travaillent contre le cancer. Je voudrais que vous nous parliez de votre outil, à quoi il sert et en quoi il peut être révolutionnaire même, en fait, pour les gens qui nous écoutent.
Merci. Donc nous, on travaille avec donc l'Institut Gustave Roussy notamment et d'autres centres également en France sur justement une fois qu'un diagnostic de cancer est posé, des questions vont se poser pour l'oncologue sur quelle est la bonne prise en charge pour son patient. Mmh. Notamment par exemple dans le cas de cancer du sein ou de cancer de poumon, on a de plus en plus d'options thérapeutiques, d'essais cliniques qui existent pour les patients. Mmh. Il y a une vraie question de comment personnaliser le traitement pour ce patient et pour finalement ses caractéristiques, les caractéristiques biologiques propres de sa maladie.
Mais ça veut dire, pardonnez-moi Myriam Sefta, qu'est-ce que vous voyez que le médecin ne voit pas, en fait, qu'il ne peut pas voir lui, mais que vous pouvez voir?
Alors, grâce à l'intelligence artificielle, ce qu'on peut faire, c'est de mieux processer l'ensemble des données qui sont disponibles sur un patient. Donc, par exemple, notamment, on travaille beaucoup sur tout ce qui est pathologie numérique, donc des lames d'anatomopathologie qui font 2 gigas en taille. Donc, c'est-à-dire que si je devais les imprimer, ces images feraient le côté de plusieurs immeubles dans la rue. Mmh. Et aujourd'hui, les pathologistes ont seulement quelques minutes pour résumer en quelques lignes, finalement, dans leur rapport, ce qu'ils voient dans ces tumeurs. Mmh. Et en fait, le paysage tumoral qu'ils sont en train de regarder est très complexe et très détaillé et très précis. Et en fait, grâce à l'intelligence artificielle appliquée à ces images, on arrive à faire parler ces images davantage et à mieux comprendre la maladie et donc mieux la prendre en charge et de manière plus personnalisée.
Ça veut dire que vous êtes complémentaire, mais réellement complémentaire avec le médecin qui va travailler derrière avec le patient. Vous lui donnez des clés qu'il n'aurait pas eues sinon.
Exactement.
Est-ce que ces outils dont vous nous parlez, et cet usage d'intelligence artificielle, mais ces outils-là, est-ce que demain on les trouve chez les oncologues? Est-ce que, au contraire, tout le challenge, le défi est là, en fait, il faudra attendre bien, bien longtemps? Et puis j'ai aussi envie de vous demander autre chose, enfin, est-ce que tout le monde sait s'en servir? C'est bête, hein, mais à un moment, il va bien falloir, donc...
C'est ça, c'est-à-dire que, disons que dans les dernières années, ce qu'on a vu beaucoup, c'est des grandes publications de recherche sur la faisabilité de ces méthodes d'intelligence artificielle appliquées à ces données. Et là, on est plus passé dans une étape de défi de passage à l'échelle et d'adoption de ces solutions. C'est-à-dire comment on peut former les professionnels à utiliser ces solutions d'intelligence artificielle, générer les preuves qu'il faut pour les convaincre, créer de la confiance autour des prédictions qui sont faites pour les intelligences artificielles. Et ensuite, vraiment, quels sont les programmes à l'échelle nationale, par exemple, qu'on peut mettre en place pour promouvoir l'adoption et aussi la prise en charge de ces solutions.
Est-ce que c'est super cher ?
Non. Alors, l'avantage de ces solutions, c'est que c'est que du logiciel. Et donc,
autour de la table, il y a Marie-Pierre Revel et je l'ai vu faire avec la tête la question est-ce que c'est cher ? Bougez pas, Myriam.
J'interviendrai après.
On en parlera après. Mais oui, donc, la question, c'était est-ce que c'est vraiment cher ? Donc, ça va être difficile à la fois pour les médecins de s'équiper et puis ça peut faire gonfler aussi certaines factures. Hein. Donc, la
note. Alors, Alors, donc, il y a plusieurs éléments. Sur le développement de ces outils, oui, ça peut être cher parce que c'est gourmand en données, c'est gourmand en temps d'ingénierie, de data science. Donc, sur les coûts de développement, oui, c'est des investissements à plusieurs millions sur plusieurs années pour développer ces outils d'intelligence artificielle. Mmh. Une fois qu'ils sont développés, pour les utiliser dans la vraie vie, là, on parle de logiciels et donc de coûts qui sont limités au temps de calcul qu'il faut pour faire tourner les prédictions. Et donc, c'est là où c'est intéressant par rapport à des méthodes de diagnostic plus traditionnelles, parce qu'on a vraiment des coûts d'utilisation qui sont très faibles.
Et en l'état, c'est ma dernière question, Marianne Sefta, est-ce que c'est difficile à manipuler ce genre d'engin? Donc, ça veut dire que ça nécessite de former tous les oncologues, enfin, pour dire les choses très simplement, ou pas?
Alors là, en l'occurrence, sur les solutions qu'on développe à Hawking, ça serait vraiment les pathologistes. Qui lisent les lames et qui utiliseraient ces solutions d'intelligence artificielle pour un peu supplémenter ce qu'ils sont capables de faire. Et non, c'est pas difficile d'utilisation, mais c'est un peu tout l'enjeu aussi du développement de produits, de créer quelque chose qui s'intègre dans le workflow actuel des pathologistes et dans les systèmes d'information qu'ils utilisent aujourd'hui pour que, justement, ça passe à l'échelle et qu'ils puissent utiliser ça dans leur routine quotidienne.
Marianne Sefta, vous êtes chef du diagnostic de la Startup Hawking, on vous remercie beaucoup. L'intelligence artificielle, Marie-Pierre Revel, de votre côté aussi, ça compte, en fait, ça joue, ça existe.
Oui, en imagerie, ça a un rôle important dans la détection. Je voulais juste revenir sur le fait que ces solutions doivent rester avec une supervision humaine.
Hein. Bien sûr.
C'est-à-dire, on ne doit pas faire confiance aveuglément. Donc, il y a des outils qu'on peut tout à fait valider sur des tâches de détection. Bah, j'accepte ou je rejette parce qu'effectivement, je n'avais pas été très attentif et je vois bien que là, il y a une petite anomalie. Après, les tâches de prédiction, là, je suis beaucoup plus réservée parce que je n'ai pas une boule de cristal et je n'engagerai pas ma responsabilité sur un truc qui me dit « Ah ben, cette tumeur a tant de probabilité de répondre à l'immunothérapie, oui ou non. » Mais voilà. Après, c'est vrai que l'intelligence artificielle, qui n'est quand même pas très intelligente, hein, faut le dire, c'est vraiment traiter de données massives. Et c'est vrai qu'en oncologie, ça permet, si on rentre un petit peu toutes les données, d'arriver à une personnalisation. Il y avait quelques années, j'avais vu aux États-Unis un système qui s'appelait d'IBM, Dr. Watson for Oncology, et finalement, ils ne l'ont pas poursuivi parce que ça ne marchait pas toujours. Donc, le médecin doit rester vraiment en validation et de ne pas croire aveuglément tout.
Ce qu'il faut dire, c'est que l'intelligence artificielle, dans votre domaine, elle ne se fatigue jamais. C'est-à-dire que vous allez voir plein de scanners, elle va les analyser, elle va dire si oui ou non ils sont positifs ou négatifs, elle ne se fatigue pas. C'est l'avantage de l'intelligence artificielle.
Tout à fait, et c'est le fait qu'on admet qu'on est d'humbles humains, donc comme en tant qu'humble humain, on peut être sujet à une erreur de détection, on n'a pas été attentif, et là, on sait très bien le type d'image que l'intelligence artificielle va nous permettre de reconnaître parce qu'on les a manqués, et nous, on sait aussi le type d'image que l'intelligence artificielle ne s'est pas encore détectée. Donc on est complémentaires.
Vous n'avez pas aimé la remarque de Christophe, mais je vous la laisse du coup. Sachant que les IA sont plus performantes que l'œil humain, pourquoi ne pas laisser l'interprétation des images médicales aux IA sans compter que tout le monde n'a pas accès à des spécialistes? Donc voilà. Alors, vous avez tous entendu Marie-Pierre Revel, laisser le spécialiste lire.
Très bonne question. Malheureusement, l'IA n'est pas encore autonome. Voilà. Il y a des choses qu'elle ne voit pas.
J'ai
elle peut être très,
très
performante, on va dire 8 fois sur 10, et de temps en temps faire quand même une grosse bévue. Donc,
allez,
heureusement qu'on est encore là.
Retour au standard, Emmanuel, ça fait longtemps que vous nous attendez, puis surtout vous vous êtes arrêté sur le bord de la route, c'est ça?
Je suis désolé,
pauvrette, on vous écoute.
Je vous en prie, bonsoir à vos invités. Bah, du coup, je vais changer un peu ma question qui était normalement à formuler au présent, je vais la formuler au futur.
Ouais.
Et puis dans un avenir proche, une simple prise de sang pourrait révéler la présence, ou en tout cas un doute sur la présence d'un cancer, et qui pourrait nous mener ensuite vers des diagnostics, imagerie ou prélèvement comme d'habitude, comme ceux expliqués ce soir.
Merci beaucoup, Emmanuel. Une vraie bonne question, évidemment, que beaucoup d'autres se posent. Eric Solari, c'est ça l'avenir?
C'est une voie de recherche. Alors pour l'instant, les examens qui sont faits sur une simple prise de sang permettent plus de suivre des cancers établis qu'on a déjà caractérisés que de les identifier et que le dépister. Donc on n'en est pas encore là. Je ne peux pas dire encore si on parviendra à cette solution, mais c'est une voie de recherche, clairement.
Mais la goutte de sang, ce sera de la médecine préventive ou prédictive? Ça veut dire, est-ce qu'on pourra lire dans mon sang, si je puis dire, attention, vous êtes un terrain pour telle et telle chose que je n'aurais absolument pas développé pour l'instant, ou pas?
Oui, ce sont Donc, ce sera deux choses complémentaires. En fait. Ça peut être à la fois prédictif et un outil de découverte et de dépistage. C'est en tout cas dans ces directions qu'on travaille. Pour l'instant, on n'y est pas.
Mais c'est vrai que pour l'instant, ces biomarqueurs, on n'a pas trouvé encore le candidat idéal, parce que il faut une masse tumorale assez importante. Donc, comme outil de dépistage pour l'instant, ben, on n'a pas trouvé le candidat. Il y a aussi des problèmes de coût, parce que encore une fois, on s'adresse en population, donc il faut que les coûts soient acceptables. Et encore une fois, il faut une équité. C'est-à-dire que ça, si c'est possible que dans des pays extrêmement riches, industrialisés, c'est pas la même chose que s'il y a un test peu cher qui puisse être déployable partout. Donc il faut bien réfléchir à ça.
Je me demandais où on en était aujourd'hui de la médecine prédictive, justement. Enfin, on en a parlé il n'y a pas si longtemps, ici même au téléphone sonne, vive Angelina Jolie, notamment donc la présence de gènes ou pas. On disait tout à l'heure, Eric Solari, que les gens avaient, les femmes et les hommes d'ailleurs, avaient beaucoup de mal à aller faire les choses qui étaient à leur portée, c'est-à-dire mammographie ou test du cancer colorectal. Est-ce que le prédictif, c'est pire? Ça pose tellement une autre question, en fait. Je sais qu'un jour, peut-être, ça va beaucoup plus loin dans la réflexion. Donc, est-ce qu'on est encore très balbutiant, en fait, là-dedans, de toute façon?
Oui, alors là vous parlez des bases génétiques en quelque sorte,
des cancers
qui prédisposent à des situations bien particulières. Oui, ça c'est déjà en place et c'est effectivement pas forcément simple à gérer. Je pense que pour revenir au sujet de l'intelligence artificielle que vous évoquiez tout à l'heure, je crois qu'il faut rapporter une expérience réalisée au Danemark il y a 2 ans, dans laquelle en analysant simplement, c'est une population de 6 millions qui est très bien organisée, donc la base de données est très structurée, et en analysant les données de l'assurance maladie, c'est-à-dire le rythme des consultations et des prescriptions qui étaient faites, les Danois ont pu mettre en place un algorithme qui prédisait le risque de cancer du pancréas, qui est un cancer très difficile. Donc voilà un peu une des approches d'intelligence artificielle qui pourrait énormément faire avancer le domaine. Donc j'ai l'impression que en termes de recherche sur le cancer, habituellement quand on parle de cancérologie, on parle de traitement de cancer avancé. Qu'est-ce qu'on a découvert comme nouveau traitement? Aujourd'hui, on assiste, et en particulier grâce à l'intelligence artificielle qui apporte de nouveaux outils, à une bascule du côté de la prévention et du dépistage. Et c'est une étape extrêmement importante, parce que si on arrive vraiment à développer ça mieux que ce qu'on arrive à faire aujourd'hui, grâce en particulier aux outils d'intelligence artificielle, alors on devrait gagner en termes de survie, parce que, encore une fois, on va dépister précocement, donc traiter simplement et guérir.
On a... pardon, allez-y rapidement Marie-Pierre Revel, comme ça on a le temps d'écouter Fanny.
Il y a aussi des choses simples. On parlait tout à l'heure, la première auditrice du mélanome, il y a aussi la prévention, se mettre de la crème, pas s'exposer, pas exposer les jeunes enfants au soleil, pas fumer, faire du sport, enfin ça c'est quand même...
C'est la base,
je suis désolée, c'est un peu basique de dire ça, mais c'est quand même très vrai.
40% des cancers sont évitables grâce à tous ces gestes très simples.
Même si la maladie est quelque chose de terriblement injuste... Avant d'avoir Fanny, juste un mot quand même, c'est celui d'Antoine sur WhatsApp et qui dit « Je suis cadre de santé en service de radiothérapie à Paris. Nous manquons affreusement de personnel paramédical pour faire fonctionner les machines. Dans mon service, il manque 13 manipulateurs sur 30. Ces métiers sont peu connus, très peu valorisés. Quels que soient les progrès, nous ne pouvons pas prendre en charge autant de patients que nous le voudrions. » Merci de votre message Antoine. Fanny, il nous reste peu de temps, mais allez-y, on vous écoute. Bonsoir.
Oui,
allez-y Fanny.
Oui, bonsoir. Merci de prendre ma question. J'ai 71 ans. Jusqu'en 2014, ma gynécologue faisait un frottis une fois par an et puis petit à petit tous les 2 ans. J'ai déménagé et ma nouvelle gynécologue, en fait, depuis un moment, m'examine mes seins, fait un examen gynécologique, mais ne me fait pas de frottis. Je voudrais savoir ce que vous en pensez. J'ai donc 71 ans.
Est-ce qu'on peut... Alors, on n'a pas de gynéco autour de la table, donc je ne veux pas que ce soit dise une bêtise. Fanny, la seule question que j'ai envie de vous poser, c'est est-ce qu'on peut le demander? En fait, si ça rassure, dire à son médecin, je voudrais ce geste-là. On demande ou pas?
On peut au moins poser la question du pourquoi. C'est très difficile de répondre sur un cas particulier, mais on peut certainement poser la question du pourquoi.
Écoutez, ce sera notre conclusion, Fanny, demandez à votre gynéco. C'est aussi simple que ça. Je vous remercie tous les trois chaleureusement, vraiment. Merci à tous pour vos nombreux appels et pour vous très, très nombreux messages.